On a loué, adoré, parce qu'il le vaut bien. Hein? On est bien d'accord? Amen. Ah, mais dans la parole, il y a plein de choses, et plein de choses intéressantes. Alors moi, j'ai l'intention aujourd'hui de vous raconter une histoire. Mais il faut bien un titre pour l'histoire. Alors le titre, c'est « N'ajoutons pas de loi à la loi » ou « Ne soyons pas plus royalistes que le roi ». Alors, cette histoire, c'est l'histoire de plusieurs hommes. Et ces hommes, bien souvent, ils sont prompts à dire que la Bible se suffit à elle-même et qu'il n'y a rien à ajouter ni rien à retirer. Et ça, vous êtes bien d'accord avec ça? La Bible se suffit à elle-même. Mais, comme l'homme n'est pas à une contradiction près, il ajoute souvent un petit mais. Mais il est bon que vous pensiez comme moi, comme nous, car il ne serait pas acceptable pour nous, pour moi, que vous puissiez interpréter la parole autrement. L'homme fonctionne comme ça. On rajoute des mais, parce qu'on aime bien que les choses se passent comme on le veut. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, cette histoire, je vais vous la raconter, elle vient d'un livre que vous allez certainement découvrir pour certains. Non, vous le connaissez par cœur. Ce livre, c'est un vieux grimoire qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Acte 15. Vous pourrez le lire chez vous, comme ça vous pourrez remettre tout ça en mémoire. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez l'ouvrir dès le chapitre 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors là, qu'ils enseignent. Waouh, super! Ils avaient reçu l'enseignement et ils redonnaient cet enseignement. Mais leur affirmation, elle a causé vachement de troubles. Plein de gens se posaient des questions. Mais du coup, est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je ne suis pas sauvé? Mais qu'est-ce que je dois croire? Ils se posaient beaucoup de questions. Ça faisait du trouble. Pourtant, ces hommes-là qui nous enseignent, ils doivent avoir raison puisqu'ils se basent sur des textes anciens. Et puis, il me semble me souvenir que Jésus nous le rappelle dans Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Comment je dois comprendre ça? Donc, s'il ne doit pas abolir, c'est que la loi, c'est toujours valable. Donc, si elle est toujours valable, eux, ils ont raison de nous dire ça. Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion. Il y en a même qui racontent que ça s'est transformé en une forte dispute, selon les textes. Parce que Paul, il avait tendance à peut-être s'énerver, en tout cas ça montait assez vite comme ça. Donc quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il discutait franchement. Alors, devant cette contestation, parce que c'est pas le tout de discuter, est-ce qu'ils ont raison d'instruire de cette manière-là ou est-ce qu'ils ont tort? La question, elle était posée. Alors, les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques autres, ils monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Parce que tout seul, eh bien, ils n'y arrivaient pas. Chacun restait sur sa position. Alors, les voilà partis pour Jérusalem, et puis, partout où ils passaient, ils ont fait comme ils font d'habitude. Eh bien, ils apportaient la parole, et beaucoup étaient touchés, guéris, des vies transformées. Ils continuaient leur chemin. Ok, ils avaient un objectif, ils allaient à Jérusalem, mais ils en profitaient pour, à chaque fois qu'ils s'arrêtaient quelque part, pour apporter la parole. Alors, les voilà arrivés. Ils arrivent à Jérusalem. Ouh, génial! Ah, ils furent reçus par l'Église avec un grand E. Les apôtres, les anciens, alors ils racontent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Toutes les transformations de vie, les guérisons, partout où ils se sont arrêtés pour apporter la parole, il s'est passé des choses. Ah bah, et on, tous écoutaient avec émerveillement en se disant « Waouh !» C'est formidable. Ils restaient, j'imagine, bouche bée en disant, mais quelle transformation, c'est formidable ce que vous avez pu vivre. Ils étaient toujours heureux d'entendre à quel point Dieu intervenait avec les disciples. Ça, c'est vraiment formidable. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », quelques-uns du parti des pharisiens, il y en a même qui disent de la secte des pharisiens, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, pourtant, croyaient en Jésus, eh bien, ils se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors là, Paul, il se dit, mais on est à peine arrivé. Ok, c'est le sujet qu'on devait aborder. Eh bien, il faut croire qu'ici, comme là-bas, il y en a qui se lèvent et qui ont cette même position de dire qu'il faut circoncire les païens. Ils se sont téléphonés ou quoi, là? Il y en a un qui a dû appeler en disant « Ouais, allô, il y a Paul et Barnabas qui arrivent. » Ah oui, mais ils n'avaient pas de téléphone à l'époque. Donc, ils ont envoyé un pigeon voyageur qui voyageait très vite et qui allait directement à Jérusalem avec un message. Tu feras gaffe, parce que Paul et Barnabas, eh bien, ils arrivent et ils vont tout fiche par terre. Il faut absolument que vous puissiez convaincre tout le monde qu'il faut circoncire les païens. Du coup, ils ont envoyé des signaux de fumée, ils ont tout fait, parce que le téléphone portable n'était pas encore prêt, donc ils se sont débrouillés comme ça. Non, je ne sais pas s'ils avaient envoyé, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je raconte des blagues, je ne sais pas s'ils ont envoyé un pigeon voyageur. N'empêche qu'il se trouve que partout où ils passaient, il y en avait qui pensaient qu'il fallait faire autrement et qu'il fallait circoncire les païens. Bon, alors, ça aurait pu en rester là, mais comme toujours, Dieu est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre. Pourquoi ? Pour nous enseigner. Ah oui, si c'est marqué dans la Bible, c'est que ça a une raison d'être. Je continue mon histoire. Les apôtres et les anciens, ils se réunirent pour examiner cette affaire. Et puis, boum, ça recommence, une grande discussion s'engage. Oh, imaginez un petit peu le brouhaha que ça devait être. Parce que quand ils se réunissaient, ils ne faisaient pas semblant. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Alors forcément, il y en avait qui étaient du parti des pharisiens, il y en a qui étaient du parti des apôtres, et puis ça, chacun allait avec ses arguments. Mais vous savez comment ça se passe quand chacun arrive avec ses arguments ? Forcément, j'ai raison, puisque les arguments que j'apporte, c'est moi qui les apporte. Donc ceux en face, ils ont forcément tort, puisque c'est moi qui ai raison. Et pareil de l'autre côté. Jusque-là, logique. Alors, quand chacun reste sur ses positions, forcément, ça n'avance pas du tout. Mais heureusement, il y a le Saint-Esprit, vraisemblablement, qui vient titiller Pierre. Bon, il faut dire que Pierre, il a vécu auprès de Jésus, connaît plein de choses, il y a des choses qui lui reviennent en mémoire, il se rappelle même ces gens qui lui rappelaient, et il dit rappelle-toi donc, tu te souviens quand Jésus il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Waouh ! Eh oui, Heureusement, Pierre, il a de la mémoire, mais il a ses copains qui sont autour et qui lui rappellent, ils discutent entre eux. Ah, tiens, tu te souviens ce que Jésus a dit? Mais il a aussi sa propre expérience, Pierre. Alors, titillé par le Saint-Esprit, vraisemblablement, je ne vois pas comment ça a pu se passer autrement, il se lève et leur dit, mes frères, vous savez que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Vous vous souvenez de cette histoire, hein? Et Dieu, qui connaît les cœurs, a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous, n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Eh bien, vous savez quoi? À partir du moment où Pierre s'est levé, qu'il a pris la parole, ils se sont tous tus. Cette intervention, eh bien, elle ramena le calme. Alors bon, peut-être que certains restaient sur leur position en se disant oui, mais, parce qu'on aime bien rajouter des mais ils se sont tus. Alors ils ont pris une décision, ils ont écrit une lettre. Cette lettre était faite pour instruire, mais aussi pour apaiser ceux qui avaient été troublés par cette injonction humaine de vouloir faire circoncire les nouveaux croyants. Alors c'est par cette lettre que se termine cette histoire, mais ce n'est pas la fin de mon intervention. Cette lettre, elle commence par « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous de je recommence, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. » Alors cette histoire, vous la retrouvez dans le livre des Actes, comme je le disais. Cette histoire, elle doit nous alerter sur nos positions, notre position vis-à-vis des autres chrétiens. J'ai envie, bien sûr, de vous renvoyer à la parole annoncée lors du culte du 27 mars, que j'avais intitulé « Amour, tolérance et bienveillance ». C'est un peu une suite. Parce qu'il faut savoir que les sujets de discorde, eh bien, ils sont nombreux, même entre chrétiens. Rien que sur les questions spirituelles, la foi, notre lecture et interprétation de la parole. Alors bien sûr, je ne compte pas les autres sujets de la vie courante, hein, le port du masque, on était tous d'accord, pas de souci. Sur la Covid, tout ce qui a été décidé pendant toute cette période dans laquelle nous sommes encore de pandémie, sur les élections, la politique, etc. Autant de sujets de division. Il faut se rappeler qui cherche à nous diviser. Est-ce qu'on ne se laisse pas un petit peu manipuler? L'adversaire se planque partout pour nous manipuler. Et puis nous, bah, gros balourds qu'on peut être, parfois, surtout moi, bien sûr, pas vous, Tombe dans le panneau, quoi. Alors soyons vigilants sur la façon de vivre des autres chrétiens. On disait tout à l'heure qu'il va y avoir un culte du monde. C'est comme ça, du coup, du monde. Voilà, avec. Voilà. Et tant mieux, et c'est bien. Et finalement, ça, c'est. Finalement, c'est une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'au départ, c'est une mauvaise idée. Hein, non, c'est déjà une bonne idée. Parce que nous avons chacun une façon de vivre les cultes différemment selon de la région du monde d'où on arrive. Et même déjà selon la région de France d'où on arrive, ou de l'église d'origine d'où on arrive. On vit les choses différemment. Et ce n'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles sont mauvaises. Il y a à apprendre partout. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Orléans. J'ai participé à des cultes dans une église là-bas. Et ça se vivait un peu différemment d'ici. Les chants sont pas les mêmes. Il y en a que je connaissais, des chants qui étaient plus anciens. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est de se retrouver entre frères et sœurs. C'est différent. Ouais, mais c'est pas grave. J'aurais pu dire, oh là, ils sont en retard, t'as vu les vieux chants qu'ils mettent Oh, je vais me trouver. Ou alors, je vais suivre par Internet un culte avec des chants plus. Qui me conviennent mieux. Ouais, bon, peut-être. Non, ce qui est important, c'est d'être avec des chrétiens qui vivent différemment, mais d'être avec des chrétiens, tout simplement. Si par le plus grand des bonheurs, nous avons la chance et l'opportunité de vivre des temps fraternels avec nos frères et sœurs des différentes églises de la région angevine, j'espère fortement que ça va arriver bientôt, de nouveau, que l'on puisse, que ce soit un culte tous en commun, que ce soit, je ne sais pas, une marche pour Jésus, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre idée, je ne sais pas. Mais en tout cas, vivre quelque chose avec des frères et sœurs de la région angevine. Comment est-ce qu'on va réagir? Comment je vais réagir? Alors, on peut être enthousiaste. Ouais, super, on va vivre quelque chose en commun. Oh, on va tout faire pour y aller. Ou alors, oui, non, mais d'accord. C'est bien. Mais ils ne vivent pas la foi comme nous, les autres. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Non, peut-être qu'on va réagir comme ça, je ne sais pas. En tout cas, réfléchissez. Est-ce que vous ferez votre possible pour vous libérer? Ce que je vais faire, mon possible pour me libérer? Parce que quand je vous parle, je me parle à moi-même aussi, hein, parce que je suis loin d'être parfait, hein, et loin s'en faut. Vous allez, avec enthousiasme, participer. Ou alors, est-ce que vous allez vous dire, j'y serais bien allé, mais j'ai déjà mon culte dans mon église et c'est déjà bien. Hein. Je viens tous les dimanches, quasiment, à peu près, sauf les fois où je suis absent. C'est déjà bien. Je mène une vie de chrétien. Oh, je charge un petit peu, quand même. Vous me connaissez maintenant. Enfin, en tout cas, posez-vous la question. Êtes-vous motivé pour vivre de grandes choses avec notre Seigneur Jésus? Je vous confie un petit truc que je vous ai déjà confié il y a quelque temps, mais comme vous oubliez aussi, comme moi j'oublie des fois. Moi j'ai reçu il y a, j'allais dire 30 ans, ça fait peut-être un peu plus maintenant parce que le temps passe, que j'allais vivre des grandes choses. Alors, vraisemblablement sur la région angevine, je suppose. Et je ne suis pas le seul à l'avoir reçu, cette parole, à quelque temps, sur la même journée, ou quelques années d'écart. Pour vivre de grandes choses, ben, j'espère bien les vivre, je dis Seigneur, mais quand même le temps passe, quand même. Alors des fois j'aurais tendance à me dire, peut-être que j'ai loupé le coche, les grandes choses elles sont passées, puis je suis passé à côté, dis donc. Et ça arrive, hein? Ça arrive des fois, on est sur le quai de la gare et puis on ne prend pas le bon train. Le train est parti. Pas de bol. C'est embêtant. Mais ça peut tous nous arriver, ça nous est tous arrivé. Donc on peut louper le coche. Alors, une fois de plus, je radote. Je vous invite à regarder à Jésus qui nous rassemble. Et je vous invite à ne pas regarder seulement nos différences. Que ce soit nos différences dans cette Église, entre nous, parce que nous sommes très différents les uns des autres, mais aussi les différences qu'il peut y avoir entre nos frères et sœurs des autres églises d'Angers et des environs. Tout ça pour revenir à ce texte que je vous ai partagé. Ne soyons pas de la secte des pharisiens d'aujourd'hui, promptes à juger les autres sur leur manière de faire, leur manière d'agir, leur manière d'être. On peut ne pas être d'accord avec certaines façons de faire ou certaines pensées de certaines églises, les environs, peut-être. Et alors, est-ce que c'est une raison pour ne pas vivre des choses avec eux? Certains diront, c'est hors de question, pas question que j'aille avec telle ou telle église. Ils ne sont pas comme nous, ces gens-là. Et en plus, ils pensent des choses sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Il y a certainement des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec d'autres églises, que même que d'autres églises ne sont pas d'accord avec notre façon de faire. Je disais la dernière fois que des femmes puissent prêcher. Pour certains, c'est impossible et intolérable. Mais je les respecte quand même. De même que eux vont faire tous les efforts nécessaires pour nous respecter dans nos différences. Le fait que des femmes puissent prendre la parole, puissent même pour la Sainte Cène, il y a plein de différences. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se braquer les uns envers les autres ou contre les autres. Pour être fort, il faut s'unir. Et nous, notre lien, on le connaît, notre lien, c'est Jésus. Et on rajoute à chaque fois, oui, mais n'empêche que moi, je veux bien qu'on soit unis avec nos frères et sœurs, et je suis ouvert, mais à condition qu'ils pensent comme moi, à condition qu'ils fassent comme moi. Mais c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Et ça provoque des querelles, des divisions. On a beau dire, faut être unis. Que tous soient unis avec moi. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est comme pour les partis politiques qui sont pour l'union, condition que ce soit uni avec mes pensées. Non. Ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Dans le dernier message, où il est question d'amour et de bienveillance, de regarder à l'intérêt de l'autre avant de regarder à son propre intérêt. Et ça, on peut le dire, intellectuellement on peut le penser, mais de là à le vivre, il y a souvent une marge. Parce que naturellement, on va quand même penser un petit peu à notre propre intérêt, ou à notre propre façon de penser. Cette ouverture, elle est nécessaire, mais tout seul, comme souvent, on a du mal à y arriver, par soi-même. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à changer de l'intérieur. On l'entendait tout à l'heure, quelqu'un qui priait, aide-moi à de telle sorte à ce que je diminue pour que tu puisses grandir en moi, Seigneur Jésus. Ça passe par là. Faire le ménage dans nos conceptions, dans notre façon d'être. Et ce ménage, on peut le faire, déjà avoir la volonté de vouloir le faire, de vouloir changer. Aide-moi à changer mes conceptions, Seigneur Jésus. Viens par ton Saint-Esprit transformer ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas bon. Aide-moi à faire le ménage dans mon cœur pour qu'il y ait de la place. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'avais prêché sur le Saint-Esprit en disant « Oui, Saint-Esprit, viens, sauf qu'il est déjà en nous. » Et puis on l'avait enfermé dans le placard. Et puis on ne s'en est pas rendu compte. Puis il dit « J'entends frapper. » Et « Ah, tu es là, Saint-Esprit. Excuse-moi, je n'avais pas fait attention. » Et on continuait à vivre comme si de rien n'était avec le Saint-Esprit enfermé dans le placard parce qu'on ne le laissait pas agir. Alors laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, qu'il nous aide à transformer notre cœur mal en point, notre cœur de pierre, qu'il nous aide à balayer jusque dans le moindre recoin pour pouvoir nous libérer de ce qui n'est pas à sa gloire, pour faire de la place pour lui, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, que vraiment, pour lui permettre de vivre en nous, il faut lui faire de la place. Qu'il fasse grandir son amour en nous et que cet amour déborde. Déborde au point que peu importe que ce soit un chrétien ou pas un chrétien qui arrive, qu'on puisse déborder d'amour. Qu'on ne soit plus obligé de se rappeler ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, mais que ça devienne naturel. Et pour ça, on a besoin de cette transformation. Je le redis, mais s'il y a eu ce commandement nouveau, quand il y a un commandement, c'est que ce n'est pas naturel. C'est qu'on a besoin d'axer sur ce point-là. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin d'un commandement. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder déjà en vous et pendant que je vais prier pour moi et pour vous, eh bien, associez-vous à cette prière ou réfléchissez à là où vous en êtes, dans cet amour, dans cette acceptation de l'autre, l'acceptation entre chrétiens, malgré nos différences. Amen. Wow, Seigneur, merci pour ta présence avec nous ici, pour ton Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour toute ta parole qui nous instruit, qui nous permet d'avancer jour après jour. Et Seigneur, eh bien, viens, je te le demande, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, viens m'aider, nous aider à faire le ménage dans nos cœurs. Aide-nous à aimer comme tu aimes, avec tout ce que cela implique, aide-nous à regarder les autres avec tes yeux. Aide-nous, lave-nous les yeux afin de ne plus voir les différences, de voir ce qui ne va pas chez les autres, mais aide-nous à voir avec vraiment beaucoup de compassion, d'amour, de bienveillance, à voir tout ce qui est bon en l'autre. Continue ta transformation, Seigneur. Tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu as une destinée. Tu as donné des dons à chacun d'entre nous. Je le sais, et c'est important qu'on se le redise, tu as des plans et des dons pour chacun d'entre nous. Aide-nous à exprimer ces dons. Aide-nous à découvrir tous les bienfaits que tu as mis en nous. Qu'on ne se borne pas uniquement à ce que nos yeux voient, ce que notre intelligence comprend. Aide-nous à aller tellement plus loin, Seigneur, à marcher dans tes pas et à te suivre là où tu veux que nous allions, Seigneur. Non pas là où nous voulons aller, mais là où tu veux nous emmener, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Aujourd'hui, merci pour ce que tu as entrepris depuis déjà bien des mois, des années, pour chacun d'entre nous, y compris pour cette église, pour les églises d'Angers, pour les églises de la région, Seigneur. Qu'il y ait vraiment un renouveau, un regard bienveillant les uns sur les autres, que vraiment on puisse avoir plaisir à se retrouver, à vivre ensemble les grandes choses que toi tu as prévues, Seigneur. Et non seulement aller voir et aller vivre, mais à y participer, Seigneur. Que chacun d'entre nous, on se sente investi de tout ce que tu as mis dans notre cœur, qu'on se sente investi de ta force, qu'on se sente investi de ton autorité pour pouvoir déborder de joie, d'amour les uns pour les autres et pour tous ceux qui nous environnent, pour ceux qui sont de notre famille, pour nos voisins, pour tous ceux que l'on va croiser, Seigneur, que tu puisses déborder en nous. Amen.